CV.
Que tous les coquins soient démasqués, jugés.
Boulevard.
Et bon lundi. Bon lundi sous le soleil et les nuages. J'espère que vous allez bien. Je m'installe. Je suis contente d'être là. J'étais contente de commencer avec vous cette semaine, de me réveiller puis de faire un mince trois jours dans leur CV cette semaine parce que ben mercredi, je quitte. Mais on vous expliquera le plan. On a été assez originaux, merci, pour les prochains jours dans leur CV. Bon, on va faire ça de façon normale. C'est la dernière semaine d'une programmation quand même assez normale dans leur CV, là, celle que vous connaissez depuis l'automne. Et bienvenue dans ce meeting collectif-là. C'est notre rencontre au sommet. J'aime ça appeler ça comme ça. Jusqu'à 11h, on s'accompagne sur divers sujets, entre autres la dernière de Fred Bérard, la dernière de Frédéric Bérard, l'avocat, chroniqueur et autres, et qui a tout un sujet pour nous. On s'en va parler d'usine de viande à chien. Est-ce qu'il y a une différence entre manger de la viande de chien et manger de la viande de bœuf, de porc, de poulet, de peu importe. C'est là où on s'en va jaser de la question dans un instant. Il y a comme des conventions sociales qui font en sorte qu'on ne touche pas aux chiens, on ne touche pas à ça. Mais Frédéric en a long à dire et puis je le sais qu'il va y avoir des débats. Ça va être très chaud en début d'émission à leur CV, sachez-le. Et on va aller aussi jaser de tout ce qui est parentalité, en fait, au masculin à la fin de l'émission. Comment vous vivez vos divorces, messieurs, si jamais, avec les enfants, avec tout ce qu'il y a à organiser? On parle un petit peu plus tard du pourquoi on a choisi ce sujet-là ensemble pour aujourd'hui, mais il y a des études qui sont sorties, des statistiques fort intéressantes. Mais là, on s'installe tranquillement, pas vite, puis je sais, là, vous commencez déjà à m'envoyer des textos sur le fait que il y a... Là, il y a quelqu'un qui appelle. On le prend-tu en onde? On va le prendre. On va aller voir ce qu'il y a à dire, mais je sais pas s'il sait qu'il va être en onde, là. Salut Boulevard, ça va bien?
Oui, salut. Oui. Tout de suite, ton affaire de viande de chien, là.
Oui, t'es en onde, là. OK. Salut, bienvenue.
OK, ouais, oui. C'est tout de suite la publication Facebook qui tournait en fin de semaine.
Ah, tu verras.
Parce qu'il y avait une publication Facebook de viande à chien, mais si quelqu'un allait cliquer sur la page, c'est carrément écrit satirique. Là. C'est une page de vegan qui font de la provocation.
Exactement ce dont on va parler. Fait que reste là, OK? Merci d'être notre informateur, puis surtout t'assurer qu'on s'en va pas dans une mauvaise traque.
Ça me fait plaisir.
Salut, bonne journée. On l'a pris en onde. Bon, on va faire ça. Si ça vous tente cette semaine, quand vous appelez, on va vous mettre en onde. Alors, sachez-le, soyez prêts. Mais oui, on va jaser de cet article-là qui a fait tellement réagir. Mais il y a aussi la question sociale qu'il faut qu'on se pose. C'est quoi la différence là-dedans? Viande à chien ou vente de chien? Nuance importante, effectivement, Fred. Hey, vous êtes en feu ce matin. Merci d'être là. On a un petit bug Twitch, là. C'est ça que j'allais dire avant de prendre l'appel. Plusieurs personnes qui disent, ouais, on n'est pas capable d'entendre quand t'es pas en onde le son de la radio. Puis souvent, on va aller discuter sur cette plateforme-là pendant les chansons ou encore les blocs publicitaires. Donc, c'est le twitch.tv/BLVD/FM. Mais là, c'est ça. J'attends que Jordan, le technicien, vienne me rejoindre. Ça a été signalé, mais je peux rien faire. Fait que vous pouvez continuer de dire que j'ai tout fait bugger. Peut-être. Je ne sais pas ce qui s'est passé. 15 degrés, c'est ce qu'on a à l'extérieur. Ça va monter jusqu'à 20 aujourd'hui. Alternance, soleil, nuages. Oui, risque d'orage aussi, mais avec 40% de probabilité d'averse. Le risque d'orage est plutôt pour cet après-midi. Et sinon, c'est demain qu'on attend le retour du soleil. Demain jusqu'à jeudi facilement. 23 pour mardi, 24 pour mercredi et 26 degrés comme maximum pour jeudi. Oui, Jordan est arrivé, notre sauveur qui va essayer de rétablir ce qui se passe avec les caméras. Sinon, il y a toujours le 418-971-1021 ou si vous voulez appeler comme l'auditeur dont je n'ai pas pris le nom, le 418-780-1021. C'est quand vous voulez, mesdames et messieurs. Hey, un excellent lundi. Et écoutez bien cette chanson-là, elle est vraiment excellente. Ça a été une reprise de Fortune Cookie Club de l'initial, un peu plus rock, un peu plus sale, un peu comme son titre.
Leur CV avec Pascal CV.
On est de retour à l'émission à 10h08, déjà ça fait réagir le prochain sujet, mais juste avant vous me l'avez dit, c'est quoi le proverbe de la journée? Ben, on est lundi 10 juin, on va l'avoir, le proverbe il est là. Le bonheur n'est pas une destination à atteindre, mais une façon de voyager. Et ce matin quand je me suis réveillée, je suis tombée sur, moi je suis plein de pages de psychologie sur Instagram, c'est comme une façon de m'alimenter, mais là pas de la psychologie à deux scènes, là, vraiment des spécialistes, beaucoup de spécialistes américains. Puis à travers de ces pages-là, il y en a un qui a publié aujourd'hui: soyez donc le vecteur de changement du lundi de quelqu'un autour de vous. Ça veut dire, faites peut-être un sourire à quelqu'un que vous n'auriez pas souri normalement. Appelez juste un ami, un proche, quelqu'un que vous aimez pour lui dire. Faites juste un petit quelque chose aujourd'hui qui va faire en sorte que vous allez changer la journée de quelqu'un que vous appréciez. Je trouvais ça le fun d'avoir ça dans mon feed Instagram. Donc, je vous partage aujourd'hui. Autant je l'ai mis en publication publique, autant que je vous le dis. Oui, il y a un bug Twitch. On revient. Jordan, notre technicien, est là-dessus. Je le répète, c'est normal. Soyez pas trop loin. Peut-être branchez-vous sur une autre manière d'écouter la radio, autant sur l'application, en fait, de Boulevard 102.1 que les ondes hertziennes. C'est aussi simple que ça. On s'en va accueillir notre invité du lundi, notre chroniqueur habituel pour sa toute dernière de la saison de leur CV. Il est au bout du fil, tout juste avant de partir prendre l'avion dans les prochains jours. Auteur, chroniqueur, bien sûr, avocat, Maître Bérard, Frédéric Bérard, est au bout du Zoom. Salut, Fred.
Salut, Pascal.
Écoute, j'ai lancé le sujet qu'on va aborder ensemble d'une manière un peu marketing thing tantôt. Je t'explique pourquoi. J'ai demandé aux gens s'ils mangeaient de la viande de chien et s'ils ils étaient prêts à le faire. Tu sais, déjà, mon technicien qui est en studio et qui n'est pas là d'habitude vient de lever la tête en disant qu'est-ce qu'elle est en train de dire, elle. Mais c'est pas mal ce qui s'est passé en texto sur Twitch quand ça fonctionnait dans les dernières minutes. Puis, il y a même un auditeur qui a appelé pour dire « Hey, attends un peu, là, ça concerne-tu l'article qui est paru partout sur les réseaux sociaux en fin de semaine? » Parce que je veux juste qu'on soit sûr que c'en est un satirique, vous savez que c'est pas vrai. Oui, on le sait. Mais effectivement, il y a quelque chose qui a tourné pas mal sur les réseaux sociaux en fin de semaine. Et c'est un article qui faisait une certaine promotion autour de la viande de chien, comme quoi on était dans des élevages de chiens pour justement en soutirer de la viande par la suite. Puis on le faisait de façon totalement candide dans l'article. Mais ça a été un coup, un coup d'opinion, un coup de message important de la société. Et toi, tu l'as publié en fin de semaine, puis ça me fait réagir parce que je sais que toi, tu es végétarien, assumé.
Oui, absolument, oui.
Tu as même deux cochons domestiques.
Absolument. Deux chiens, deux cochons, deux chats. C'est une ménagerie chez moi.
C'est propre, Frédéric, c'est ma première question. Mais je sais qu'on va parler là dans le sujet, mais...
Impeccable chez moi.
Ça reste que ta fille et toi, vous êtes deux bons militants pour le végétarisme. J'ai dit là, on ne fera pas choquer le monde, on ne fera pas une leçon d'éducation en ondes ensemble ce matin. Mais t'en as long à dire sur le sujet, puis j'ai le goût qu'on le fasse malgré tout avec les auditeurs, parce que s'il y a une chose qui est intéressante dans cette heure-là, leur CV, c'est que les gens ont des trucs à dire, puis ils le font de manière respectueuse, mais on est dans le débat.
Ben, écoute, oui, on peut débattre, il n'y a pas de problème, mais moi, je suis même pas dans le débat comme tel. Je fais juste expliquer. Moi, j'ai adopté Georges en décembre 2022 et j'ai adopté Albert en septembre 2023. Ce sont deux frères qui ont quelques mois de différence parce que, bon, les cochons se reproduisent assez rapidement. Et Georges et Albert, pour ceux qui ne savent pas, pèsent chacun 37 livres. Ce sont de petits cochons de rien. Ils ont l'intelligence d'un enfant de 4 ou 5 ans, essentiellement. Ça, c'est reconnu par la science. Pour toi qui se pose est-ce que c'est propre chez moi, c'est impeccable. Parce que Georges et Albert, tu sauras donc, en l'espace de 24 heures, ont appris comment faire leur truc, c'est-à-dire sur un pipad à l'intérieur. C'est beaucoup plus intelligent qu'un chien. C'est beaucoup plus propre qu'un chien. C'est d'une sensibilité exceptionnelle, je te dirais. C'est parmi les animaux les plus intelligents. Et moi, bon, évidemment, ce sont mes petits, je te dirais. J'ai évidemment beaucoup, beaucoup d'affection pour eux. Et oui, je suis végétarien. J'étais végétarien déjà un petit peu avant ça. Mais tout ça pour dire que moi, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai aimé dans cette espèce de parodie-là? Parce que c'en est une.
Oui, oui, on va lire quelques phrases, si tu me permets, Frédéric, pour mettre les gens en contexte. Et l'article commence avec « De la ferme à l'assiette. Mettez la table avec le meilleur rôti de l'homme. La ferme Bernier est une entreprise familiale depuis 1979. Nous offrons à nos amis et nos voisins la meilleure viande de chien élevée en plein air, dans le respect du terroir et des traditions paysannes. Contrairement aux pratiques de certains élevages, nos chiots ne reçoivent jamais d'antibiotiques ni d'hormones. Ils passent peu de temps fermés. Ils ont accès à des pâturages verts durant l'été. Ils sont nourris uniquement avec une alimentation biologique sans soya. » Là, on continue dans la description de cet élevage de chiens-là, mais qui finalement, c'est le genre de choses qu'on lit pour des fermes d'élevage de porcs, de bœufs, de poulets, mais c'est juste qu'on a changé poulet, bœuf ou porc pour chien.
Ben oui, ben absolument.
Ça
Puis
fait
c'est pourquoi.
réagir.
Tu sais, c'est pas une blague, cette affaire-là. C'est pas une parodie dans le sens de Rock et les oreilles. C'est pour faire réfléchir les gens. Puis le message est excessivement puissant, hein, parce qu'on voit ça souvent, ces publicités-là, disant, ben, tu peux en manger de la viande, c'est pas si pire. Regarde, là, la poule est heureuse, là. La vache est heureuse, elle se promène dans le champ, puis elle a un sourire, puis il n'y a pas de problème, là. Elle aura une magnifique vie au final. Alors, tout le monde sait que c'est de la frime, ça, parce que l'élevage industriel, c'est, puis ça, il faudrait avoir fort se le dire, hein, c'est l'une des causes principales, Pascal, pour le réchauffement climatique. Enlève ça, là, puis on ne serait pas dans le trouble qu'on est là. Il y a une étude qui vient de sortir en France. Si les Français mangeaient moitié moins de viande, pas qu'ils en mangent plus, là, juste moitié moins de viande, imagine, la France respecterait ses objectifs de GES en claquant des doigts. La viande, c'est pas bon pour la santé. La viande détruit la planète. Puis, ça, c'est mon petit volet à moi, c'est cruel parce que c'est pas de la viande que vous mangez, ce sont des animaux, au
Est-ce que tu
final.
en veux à ces gens-là, Frédéric, ou c'est vivre et laisser vivre?
Ben, j'en veux pas, mais j'en veux pas, je vais te dire pourquoi. Parce que c'est une construction sociale. Et on est né dans un univers qui te dit mange du cochon, mange du poulet, mange du bœuf, mange,
Puis
et
ça a
tu t'en vas.
assuré notre survie depuis la nuit des temps, là.
Ouais, depuis la nuit des temps, la réalité, par contre, c'est que ça fait déjà quelques décennies qu'on n'a plus besoin d'en manger parce qu'il y a toutes sortes d'alternatives. Écoute, j'en suis la preuve, j'en mange pas de viande. Puis on est plusieurs autres à le faire. Mais où je ne juge pas, c'est qu'il y a une construction sociale. Et on en parle. Et là, tu vois, j'ai des gens, des amis super intelligents qui lisent ces études-là, puis disent, ben oui, c'est vrai, c'est pas bon pour la santé. Ben oui, c'est vrai, ça détruit l'environnement. Ben oui, c'est vrai, c'est cruel. Mais on est tellement conditionné qu'on continue. Hein, quand on va, par exemple, dans une boucherie, ben on voit pas l'animal, on voit juste le morceau de viande qu'on va faire cuire sur le banc. Et puis moi-même, ça m'a pris un certain temps avant de déclocher, le passe-moi l'expression, parce qu'on est tellement conditionné que ça devient puissant. Pour le reste, écoute, je ne sais pas trop comment dire ça, mais tu sais, si tu prends des exemples, oui, vive et laissez vivre, on peut le voir comme ça. Mais tu sais, quand Bolsonaro, quand il était président du Brésil, quand il a fait mettre le feu à l'Amazonie, hein, il y a 30 % de l'Amazonie qui a brûlé sous Bolsonaro. Mais pourquoi il l'a fait brûler? C'est parce qu'il voulait construire des productions bovines. Il pouvait construire des hectares de production bovine, puis c'est ce qui est arrivé. Donc, ça pour dire que ce discours-là, je pense qu'il faut, puis c'est pour ça que je suis content qu'on en parle aujourd'hui, il faut donner le contrepoids de ça, puis je sais que ça ne se fera pas demain matin, mais il n'y a aucun avantage à manger de la viande, sauf de dire, ben moi, j'aime ça. Au final, là, à part nos papilles gustatives, qui par ailleurs, écoute, c'est tellement rendu stupide qu'en Floride, ils ont banni avec DeSantis, là, qui est un moyen moineau, il a fini par bannir, écoute bien ça, il a banni toute sous forme de substitut à la viande. Parce que là, aujourd'hui, ils sont capables de faire du bacon qui goûte la même maudite affaire que le bacon, mais ce n'est pas du vrai bacon. Ils sont capables de
On s'est énormément développé là, côté
faire du bacon.
alimentaire, mais ça reste que, oui, construction sociale, mais quelque chose aussi qui a, comme on disait, assuré la survie. Quand on regarde aussi tout ce qui est construction du tofu, en fait, parce que on appelle ça la construction, dans ce cas-ci, on le crée, là, le produit à partir de fèves et autres, mais ça prend aussi beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de ressources environnementales. Là, à ça, on se rapporte, c'est plutôt la vie d'un être humain. Puis à travers les dernières années, ça a énormément changé. Moi, je me rappelle un voyage en Tunisie que j'avais fait en 2009, puis c'est là où, pendant 2 ans, j'ai été végétarienne par la suite parce qu'il n'y avait pas d'hypocrisie par rapport à ce qu'on mangeait, là. T'sais, je me souviens, là, d'arriver, puis dans la boucherie, la façon de me présenter ce qu'ils ont à l'intérieur, c'est par les têtes des animaux.
Oui.
Puis c'est très dans ton visage. Puis je me rappelle, moi, ça m'avait chahuté pas mal au point où j'avais pas été capable de manger de viande pendant une semaine. J'étais revenue, j'avais fait 2 ans, puis après ça, de végétarisme, puis après ça, ben, je suis retournée à manger de la viande, puis c'est encore quelque chose que j'apprécie au goût. Au-delà de ça, ça fait toujours réagir, mais j'étais quand même dans cette portion en 2009 des gens qu'on. Moi, je me souviens, là, mon père pensait que je mangeais pas à ma faim, là. J'arrivais à la maison, puis il me disait, hey, je t'ai fait du roast beef, je sais que t'aimes ça. Puis pour s'assurer qu'il y a peut-être un moment où je sois capable de manger, puis qu'il soit certain que je m'alimente bien, c'était encore très marginal. Même
Mais
en 2009.
oui, puis c'est drôle que tu dises ça, l'affaire de ton voyage en Tunisie, parce que c'est tellement ça. Hein. Je pense que c'est Laure Hardell qui avait écrit un livre qui s'appelait Voir son steak comme un animal mort. La réalité, c'est que si tu dis à je sais pas, 85-90% des gens, garde, ça c'est ton souper, là, la chèvre, là, va la tuer, puis mets-la dans ton assiette. Il n'y a pas une chance que ça arrive. Mais comme on arrive à l'épicerie, puis c'est déjà tout emballé, puis on a vu ça toute notre vie, quand je parle de construction sociale, c'est ça que je veux dire. Puis il se développe quoi à partir de la construction sociale? Il se développe de la dissonance cognitive. Mais on dit, ben non, c'est juste, ça a toujours été comme ça. Mais tu sais, l'argument de ça a toujours été comme ça, il y a toujours eu de la violence conjugale. Et à ce que je cherche, ce n'est pas acceptable pour autant non plus. En d'autres termes, ce n'est pas parce que toujours, quelque chose a toujours existé qu'il est nécessairement légitime. Puis l'autre affaire que j'ajouterais là-dessus, puis c'est important, je pense, de se le rappeler, c'est que quand on réfléchit à cette question-là, on peut se dire la chose suivante, à mon avis, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que j'ai essayé, par exemple, des alternatives? Bien, je te donne un exemple. J'étais sur une terrasse samedi au Saint-Sacrement, pour pas le dire, à Montréal. Ils ont un burger, là, je te jure, végétarien, exceptionnel. Le meilleur burger végétarien que j'ai mangé de ma vie, c'est à Tel Aviv, en Israël. J'étais allé là avec ma fille. Écoute, on est sorti, on n'en revenait juste pas. Donc, ça pour dire que souvent, puis les études le démontrent, hein, les gars sont plus boqués que ça là-dessus que les filles. Les filles, souvent, sont plus sensibles, sont prêtes à essayer autre chose. Mais il y a des études qui démontrent que, je pense, c'est 80% des femmes qui sont véganes. Tu sais, c'est pas des farces. Puis les études démontrent parce que les gars, ils associent ça souvent à une...
80% des femmes qui sont véganes.
Les 80% des véganes sont des
Ah,
femmes.
OK. Parce que là,
Non,
j'étais vraiment pas d'accord.
et donc, et les études démontrent parce que pour les gars, souvent, c'est vu comme un signe de virilité, manger de la viande, mais tout ça aussi, c'est de la construction sociale, hein? L'espèce de publicité, le gars qui fait son barbecue avec son gros steak, parce que nous autres, on mange de la viande comme d'un pierre à feu. Mais pour ça que je t'ai dit, moi, je ne peux pas en vouloir aux gens comme tels, parce qu'on a été habitués comme ça, c'est culturel. Puis j'ajouterais ceci, le lien que le gars a fait, ou la fille, je ne sais pas trop, sur le site parodique, entre les chiens et les cochons. Tu sais, quand on sait qu'en Asie, ils mangent du chien, notamment en Corée du Sud, là, il y a des chiens qui sont rescapés, qui sont amenés ici au Québec parce qu'ils étaient dus à la consommation là-bas. Bien là, on trouve ça écœurant.
Oui.
Voyons, on mange un chien, c'est dégueulasse, ça
Mais
n'a pas d'allure.
ça c'est fascinant. Moi, honnêtement, là-dessus, je suis capable d'accrocher et me dire ça, c'est fascinant à quel point, comme dans la façon de réagir à l'information, d'être sentimental peut-être, avoir de la compassion, de l'empathie par rapport à certaines races de chiens, même. Tu sais, il y en a qui sont moins appréciés que d'autres, des pitbulls ou autres. Je ne dis pas qu'on est en train de les manger, mais il y a toujours quelque chose qui est attaché à ça, puis d'avoir de la compassion pour des animaux en question, puis non pour d'autres. Mais c'est une construction sociale aussi de se dire que c'est cruel. Parce que quand tu parles à des chasseurs, des pêcheurs qui le font en bonne et due forme et qui mangent que leur viande de chasse et qui contribuent à réguler un certain cheptel aussi, à s'assurer que ça se passe bien, qu'on n'ait pas trop de virus, veut pas. Il y a des choses qui sont contrôlées par ça. Puis je te parle pas de la viande d'abattage, mais moi, je pense à un de nos chroniqueurs qui est extrêmement respectueux des animaux, en ce sens où même par rapport à des chasseurs, il fait la morale quand il dit: arrêtez de suivre un chevreuil ou un orignal en motoneige en trouvant ça drôle. Vous l'éloignez justement de son habitat. Il va mourir quelques pas plus tard. Puis lui, il va juste chasser ce dont il peut manger. Il va chasser aussi pour alimenter des gens dans la pauvreté. T'sais, il n'y a pas juste, comment dire, des gens qui sont cruels là-dedans.
Ah, mais j'ai pas dit ça. J'ai jamais employé le terme cruel de toute notre discussion. Parce qu'encore une fois, c'est une construction sociale. Puis oui, il y a des chasseurs qui. Tu sais, la chasse, pour moi, c'est un peu différent dans le sens où l'élevage l'abattage industriel, ça, il n'y a pas pire cochonnerie que ça pour polluer. Puis pour bon, c'est de la scrap, là, tu sais, les engrais qu'ils mettent là-dedans. Puis c'était ça aussi la référence que faisait le site parodique. Un chasseur, tu as raison de dire, il y a des cheptels, il y a des maximums à avoir, il y a une espèce de contrôle là-dedans. L'animal est en liberté, c'est vrai. Moi, je trouve pas que c'est un sport au sens fort du terme, là, tu sais, tu as une 308 dans les mains, puis l'animal se sauve, tu sais, c'est pas super égal là, comme combat, mais reste qu'il y a quand même quelque chose de plus éthique dans la chasse que dans l'élevage industriel qui est épouvantable. Ça, pour moi, ça fait aucun doute. Et pour
Regarder des documentaires de ça brise, là,
Non, mais
honnêtement, tu ne t'en manges
c'est
plus pendant un bout,
épouvantable.
là.
Puis pour venir à ce qu'on disait sur le pourquoi X puis pourquoi pas Y, moi, je fais le gag parfois avec des amis qui viennent à la maison. Là, ils voient mes deux cochons. Ah, Georges, Albert, puis là, ils flattent, puis là, ils sont tout contents, puis ils n'en reviennent pas avec des cochons, blablabla. Puis il y a mes deux chiens à côté. Je dis, pourquoi tu le mangerais-tu, Georges, là, mettons? Tu le mettrais-tu dans le poêle? Ah, ben non, je ne ferais pas ça. Je veux dire, si tu vas chez IGA puis tu t'achètes un filet de porc, c'est quoi, maudite différence? Il n'y en a pas. C'est la même affaire, c'est juste pas toi qui as fait la job sale. Ah, ouais, c'est vrai. Mais puis c'est pas des gens cruels, là. T'sais, ce sont mes amis. Mais il y a une déconnexion, comme je te dis, qui fait que si c'est chez IGA, ben, il n'y a rien là. C'est pas un animal mort, c'est pas un cochon, c'est juste un morceau de. Tu vois, donc c'est un peu tout ça qu'il faut réfléchir, je pense. Puis pour le reste, moi, je dis à ces gens-là, pourquoi tu mangerais pas mon chien? Ben là, ça se mange pas un chien. Mais c'est qui a décidé ça? C'est culturel. En Corée du Sud, ils ont décidé qu'ils en mangeaient des chiens, eux autres. Fait que rendu là, tu sais, moi, je fais pas de hiérarchie entre mes animaux, tu comprends? Pour moi, c'est la même affaire. Ce sont des êtres sensibles, ce sont des êtres qui ont une vie, ce sont des êtres affectueux. Puis pour le reste, ben là, peut-être que la société va continuer d'évoluer parce que ça évolue quand même, hein? Puis on le voit, il y a de plus en plus de restaurants qui offrent des mets végétariens, des mets végétaliens. Il y a des restos qui ne font que ça, d'ailleurs. Puis à travers le monde, c'est drôle, hein? Parce que moi, j'ai visité une cinquantaine de pays. Je te dirais, dans la plupart des pays en question, ils ont maintenant des menus végétariens. Il y a vraiment un buzz qui est en train de se créer, qui est lent, mais qui existe quand même.
As-tu l'impression que c'est vers là qu'on se dirige? Parce que je pense que tout le monde est peut-être un peu mitigé quant à l'aspect de la sensibilité. Je veux dire, n'importe qui regarde un documentaire d'abattoir, si t'es pas sensible à ça, je me demande quel genre de personne tu es. En même temps, moi, je respecte fortement les gens qui vont continuer à manger de la viande puis qui vont mourir en consommant de la viande. Je dis, moi, j'en fais partie de ces gens-là, malgré que j'ai été végétarienne pendant 2 ans. Oui, j'ai assurément diminué. Je consomme mieux maintenant. Aussi, je choisis ce que je vais consommer. Il y a cette construction-là qui est en train de se créer aussi dans la réflexion d'où, même si tu n'es pas au point où tu as arrêté. C'est une hypocrisie. Je sais que j'en vis à tous les jours, là. Tu me présentes ton animal de compagnie qui est un porc. Assurément, je ne voudrais pas manger de porc à
Ah, c'est pas
côté,
un
là.
bar, ce sont des
Un
cochons.
cochon. Parce que porc, c'est la viande.
Oui.
Mais oui,
Alors,
je ne sais pas où
tu
est-ce que les auditeurs se situent par rapport à ça. T'es 88-971-1021 ou encore sur Twitch. Si on vous dit qu'il y a un élevage de chiens pour la viande, puis que ça s'en vient dans vos assiettes, mais que c'est un élevage qui est absolument, comment dire, propre au niveau environnemental, mais aussi extrêmement respectueux de la bête, tu sais, jusqu'à le fait de l'abattre, c'est sûr que ça vous fait réagir, là.
Le chien, il est délicieux. Écoute, c'est fantastique. Puis le chien est heureux dans son élevage. Là, c'est écrit dans la publicité. Moi, je te dis, Pascal, je te jure, j'ai fait le test avec je sais pas combien de gens. Il y en a plusieurs qui sont devenus végétariens, au moins en partie, après avoir rencontré mes cochons. Si tu passes la journée avec mes deux cochons, tu manges plus de porc après. Ça se peut pas. C'est-à-dire, à moins qu'il y ait une déconnexion là, à quelque part.
Merci beaucoup, Frédéric Bérard. Au moins, la discussion, là, puis elle a été respectueuse. C'est intéressant. On a parlé beaucoup plus de moralité puis de société, d'enjeux aussi par rapport à ça. Toi, tu es végétarien, puis tu as trouvé ça bien comique, l'article qui a été diffusé sur les réseaux sociaux puis un peu toutes les pages en fin de semaine. Bien, le message a été passé. Ça reste qu'on s'est questionné. C'est vrai. Pourquoi on ne mangerait pas de chien puis pourquoi on s'insurge quand on
Mais
mange
voilà,
autre
mais c'est
chose?
ça le début, le
Ouais.
début de toute cette histoire-là, c'est ceci. Puis moi, j'invite les auditeurs, les auditrices juste à ça. J'ai pas fait la morale à personne. En tout cas, je pense pas.
Mais tu respectes aussi les gens qui n'ont pas les mêmes opinions et pratiques que toi.
Faut seulement s'ouvrir puis réfléchir à cette question éthique. Pourquoi je mangerais du cochon puis je mangerais pas du chien? Ah.
Merci Frédéric Bérard pour cette dernière chronique. Continuez de d'écrire. Est-ce que vous êtes en dichotomie avec vous-même par rapport à ça? Est-ce que vous vous situez où je me situe? Vous êtes comme Fred qui a tout coupé? Est-ce que vous êtes carnivore, fier de l'être? Mais si vous l'êtes, est-ce que vous posez des questions aussi? 88-971-1021 encore sur Twitch. OK, Fred, on te laisse à ta période estivale. Merci beaucoup pour cette belle collaboration durant toute la saison de leur CV.
Allez, salut bien.
On te suit sur toutes tes plateformes. Frédéric Bérard qui va continuer quand même d'être très actif. Il a publié certains livres à travers les derniers mois, dernières années, si ça vous tente de lire. Je sais qu'il y en a qui l'ont découvert sur les ondes de Boulevard cette année. Puis, ben, on va se reparler assurément, mon ami Frédéric. Bonne saison estivale. Merci,
C'était
lunettes de
bon.
soleil. Merci,
Salut.
lunettes de soleil. Salut, Fred. Avocat, chroniqueur, auteur. Frédéric Bérard qui était avec nous tous les lundis dans leur CV. Et on revient.
Et avec Pascal CV.
Boulevard 102.1.
J'ai tout aimé de vos commentaires. Vous avez été nombreux à discuter du sujet qu'on vient de faire avec Frédéric Béra sur le végétarisme, puis l'article qu'il a fait, les réseaux sociaux complets en fin de semaine, quand on a présenté un genre de fausse ferme d'élevage de chiens qui vendait de la viande, là, mais les chiens étaient super bien traités jusqu'à temps que. Puis ça a comme remis en question bien des gens sur pourquoi les chiens, on voudrait pas, les cochons, on fait avec, peu importe. Vous aviez beaucoup de choses à dire. Quelqu'un qui dit « J'ai un chien comme animal de compagnie, avoir un cochon, je penserais peut-être différemment, mais j'en ai pas. » Alors, j'en mange encore, même si je passe à côté en voiture puis qu'ils sont dans le camion. Je trouve qu'ils font pitié, mais je suis pas capable de m'empêcher d'en manger. J'aime ça, moi, dans mon assiette, et peu importe. C'est beaucoup de ça qu'on soit. Quelqu'un qui dit aussi, j'invite tout le monde à aller visiter des fermes maraîchères, des fermes animales par le fait même, peut-être pour comprendre un peu mieux à certains moments. Des gens qui disent, ouais, moi, je suis végétarienne, puis ça a été des choix personnels que j'ai pris dans les dernières années. Ma famille ne l'est pas. Moi, je n'en mange pas. Je respecte ce qu'ils souhaitent faire, mais eux aussi respectent mon alimentation maintenant. Puis ça a été justement suite à un voyage où j'ai été confrontée à une famille extrêmement gentille et consciencieuse qui m'a offert un des poulets là, familiaux. Mais malheureusement, je l'ai vu être mis à mort devant moi. C'est ce qui est écrit. Puis ça a tout changé. Il a fallu vraiment que je me force pour respecter l'énorme cadeau qu'il me faisait. Mais à partir de ce moment-là, j'ai plus été capable. C'est vrai que des fois, c'est ça, être confronté à tout ça, on voit une différence s'appliquer dans notre vie, mais dans les voyages aussi, dans les communautés où qui ont presque rien pour s'alimenter, puis c'est par l'élevage qu'ils réussissent, et il y a toujours ce deux poids, deux mesures-là, puis Frédéric l'a tellement bien expliqué. C'est fun d'avoir des gens qui n'ont pas les mêmes façons de vivre que nous, avec qui on peut discuter, puis par la suite, peu importe votre façon de faire, votre façon de vivre, ben ça vous appartient, puis c'est ça qui est le fun dans les discussions. Et on change totalement de sujet. J'avais dit qu'on allait, rejoindre les papas aujourd'hui, les papas séparés. Pourquoi? Ben parce qu'il y a une étude qui a hautement attiré mon attention. C'est rare qu'on voit ce genre d'études-là paraître, mais c'est sur les papas, justement, qui ont divorcé. 12 stratégies pour mieux soutenir les pères en période de séparation conjugale, parce que c'est quelque chose qui est demandé. Oui, mais qui est demandé de façon très discrète et parfois... surtout parce que c'est peut-être masculin, la manière de ne pas aller chercher de l'aide, c'est moins populaire. Mais il y a des ressources qui existent, et il y en a une qui existe ici à Québec. On a quelqu'un qui va pouvoir nous jaser de tout ça, puis on va tomber dans les statistiques vraiment intéressantes dans un instant avec notre invitée. Elle s'appelle Noémie Lévesque, elle est au bout du fil, elle est directrice de la Maison Oxygène de Québec. Salut Noémie!
Allô, ça va bien?
Ça va très bien, merci d'accepter l'entrevue ce matin. D'abord et avant tout, peut-être nous dire un peu, c'est quoi la Maison Oxygène de Québec?
La Maison Oxygène de Québec, on offre de l'hébergement temporaire pour les pères qui peut durer entre 3 et 6 mois. Donc, à l'intérieur, là, on a 9 chambres. Chaque papa a sa chambre dans laquelle il est logé avec ses enfants. On l'accompagne aussi avec un plan de séjour, là, des rencontres formelles une fois semaine, puis des rencontres informelles au quotidien. Puis ils ont des aires communes, la cuisine, chacun leur frigo, leur garde-manger. On a une salle familiale aussi, salle de jeu, une cour extérieure. Et on offre aussi de l'accompagnement et du soutien. Dans le fond, l'accompagnement se fait vraiment dans toutes les démarches. On peut appeler avec eux, se rendre à tous les différents rendez-vous. Puis on offre aussi le suivi externe. J'ai un intervenant qui accompagne les papas en externe chez l'avocat, la DPJ, syndic de faillite, dépannage alimentaire, tout ce qu'on a développé comme partenaire. Donc les papas qui n'ont pas besoin d'hébergement, mais qui ont besoin d'être accompagnés dans leur démarche. Dans le fond, c'est Robin qui les accompagne dans les suivis externes. Finalement, on a comme quand même une panoplie de services.
Une courroie de transmission envers tous les services possibles, que ce soit d'une demande un petit peu plus dans la détresse qu'une demande tout simplement sur un questionnement quotidien, en fait. Dans les statistiques qui sont sorties, c'est vraiment intéressant. On change l'image du père de fond en comble. On a présenté un sondage léger qui dresse un portrait qui est complètement différent de ce que certains peuvent penser dans la séparation conjugale au masculin. On dit que c'est bien plus nuancé que ce qu'on a dans l'imaginaire collectif, entre autres, OK? 68% des pères ont affirmé que leur séparation s'est très bien passée ou plutôt passée avec la mère des enfants. L'image du père de fin de semaine aussi serait largement dépassée parce que 56% des répondants au sondage ont dit avoir une garde partagée et 11% la garde exclusive des enfants. On parle toujours pour les pères, là, c'est complètement centré sur les papas. Les séparations surviennent souvent assez tôt dans la vie des enfants. On dit 72 % des pères interrogés avaient des enfants préscolaires au moment de la séparation. La relation coparentale aussi, c'est plus souvent positif que négatif parce qu'on dit que 59 % des pères indiquent qu'ils parviennent à s'entendre avec l'autre parent en cas de conflit. Fait que même quand il y a un conflit, on arrive à plus de la moitié, dans plus de la moitié des cas des répondants à dire qu'on a bien résolu tout ça. Est-ce que vous êtes surprise, Noémie, de ces statistiques-là?
Ben non, parce que nous, on est toujours dedans. On est toujours avec les papas, puis on voit comment ça va au quotidien. On l'a vu, la face et la face des papas changer, du rôle des pères changer, évoluer. Les pères sont très présents. Quand on parle de garde exclusive, là, on en a souvent eu un hébergement qui avait la garde complète des enfants. Quand on parle de séparation, les pères sont là maintenant au quotidien. C'est plus l'image de l'homme traditionnel qui était seulement pourvoyeur de « ben moi, je vais payer », puis c'est la maman qui s'occupe à la maison. Tu sais, les mères, ils ont des carrières, les pères travaillent, fait qu'ils vont, il va avoir un gros partage des tâches. Puis c'est toujours en évolution, puis c'est tellement beau de les voir là-dedans. Fait que l'image du père, dans le fond, qui peut pas prendre soin des enfants comme une maman, ça existe plus là. Il y a vraiment une coparentalité qui s'installe. Puis les pères, au niveau des séparations, tout ça, quand ils disent que ça se passe bien, souvent c'est parce qu'ils vont focusser sur le bien-être des enfants. Fait qu'ils vont se rappeler, c'est comme, OK, nous, ça va plus bien, mais nos enfants, on les a fait ensemble, puis on va être leurs parents pour la vie. Donc, comment on peut trouver un terrain d'entente pour le bien-être des enfants, puis pour leur donner l'exemple, puis que ça se passe bien? On a des histoires de pères extraordinaires là qui ont focusé. Ils ont dit, ben tu sais, moi, je vais les prendre en attendant que la maman est mieux et vice-versa. On est complètement ailleurs, là. Tu sais, avec ces statistiques-là, moi, je suis pas surprise, mais je suis vraiment très heureuse de voir que il y a des chiffres maintenant qui sont sortis pour appuyer cette nouvelle vision-là qu'on a des papas et de la coparentalité maintenant. Il y a beaucoup de positifs à aller chercher là-dedans. Là.
Plus de 500 pères qui ont répondu, près de 600 pères qui ont répondu au sondage. Puis ce qui est révélateur, qui est même touchant, c'est l'enjeu qui revenait le plus souvent, ou en fait, ce que les papas étaient le plus inquiets à propos de la séparation, c'était le lien père-enfant, la collaboration parentale, oui, mais le lien aussi avec leurs enfants, parce que il y a 73 % d'entre eux qui, après la rupture, au moment de la rupture, ont dit que ce qui les inquiétait le plus, c'était de vivre des impacts dans la qualité, la quantité de temps passé avec leurs enfants. Pour 73 % d'entre eux, c'était l'enjeu principal. La stabilité de la routine avec les enfants est venue en deuxième. On dit que 73 % d'entre eux aussi ont répondu là, que ça, c'était un enjeu fort important. Je ne veux pas déstabiliser mon enfant. Comment est-ce que je peux être partie prenante de tout ça, bien l'appliquer, ne pas la changer? Et on a parlé aussi de la qualité de la relation avec les enfants, comme quoi ça les inquiétait beaucoup. Puis venait en dernier point, là, c'est ça, la collaboration avec l'autre parent. Bien sûr, il y avait la question financière, mais ça vient beaucoup plus loin. C'est beau de voir que le père souhaite être une partie prenante maintenant de l'éducation de son enfant. Puis c'est vrai qu'avec tout ce qui a été changé, puis les paradigmes qui ont changé à travers le temps, la maman autant que le papa travaille, les deux ont un style d'une qualité de vie à aller chercher, un style de parentalité aussi, puis c'est pas parce qu'ils sont plus ensemble que ça ne permet pas ça. Qu'est-ce que vous voyez plus souvent à la Maison Oxygène, en fait, comme peut-être enjeu de leur côté, du côté des papas?
Bien, c'est exactement les mêmes enjeux qu'ils vivent. Tu sais, quand je dis que, dans le fond, on voit des belles réussites justement parce que le parent, les deux parents, focus sur le bien-être de l'enfant, veulent préserver leur lien. Quand ils travaillent vraiment dans ce sens-là, tu sais, je dis pas que c'est facile parce que ça reste quand même des séparations et tout. Puis à la maison du jeune, ben là, présentement, nous, à la nôtre, on a 9 chambres, mais il va se créer des relations entre pères. Ils vont se raconter aux autres comment ils ont fait, puis ils vont se contaminer positivement. Fait que si on a un père qui lui est plus encore dans son deuil de la relation, qui est plus amer, tout ça, ben l'autre parent va dire, ben tu sais, moi j'ai changé ma façon de voir les choses, ça va beaucoup mieux, je l'ai faite pour les enfants. Il y a vraiment des amitiés qui se créent, des fois qui vont perdurer après l'hébergement. Fait qu'il y a vraiment une entraide, tout le monde peut faire ensemble là, souvent, ils vont intervenir mieux que nous encore parce qu'ils sont dedans, là, mm-hmm. la situation.
Je comprends.
Fait que ça vient vraiment comme se contaminer positivement. Ça amène une autre dynamique dans plusieurs relations avec les pères. Puis ils voient aussi des pères qui sont rendus plus loin dans le cheminement, qui font « OK, tu sais, finalement, un jour, je vais aller mieux. » Puis non, lui, il n'a pas perdu son lien. Puis les choses vont se passer. Puis on va y arriver, nous aussi. Fait qu'il y a vraiment tout cet élément-là quand ils vivent ensemble. Puis ils vont vraiment se parler. Mm-hmm. Puis quand il y a un nouveau, ils vont le prendre sous leur aile parce qu'ils savent, eux autres, ils font déjà passer par là. Comment c'est ça prend du courage pour venir cogner à la porte, dire j'ai besoin, il faut que je parte. Là. Fait qu'il y a vraiment comme une belle amitié qui se crée dans les cohortes qui font que tout ça avance positivement.
Merci beaucoup, Noémie Lévesque, directrice de la Maison Oxygène de Québec. Si vous ne saviez pas que ça existait, maintenant, vous le savez, vous pouvez aller cogner à la porte de la Maison Oxygène, hébergement temporaire ou tout simplement juste des rencontres que vous allez faire là-bas pour vous aider à passer à travers. Des fois, la séparation est rapide. Puis là, vous ne pouvez pas cohabiter avec la mère pour un moment. Bien, ça, c'est une des belles possibilités de la Maison Oxygène, en fait, qui s'offre à vous, puis aller chercher toute l'aide possible et rencontrer des pères qui vivent la même chose que vous. Merci, Noémie Lévesque.
Merci à vous.
Merci pour votre
bonne
mission
journée.
Aussi. Bonne journée. C'est dans le cadre, en fait, de cette 12e édition de la Semaine québécoise de la paternité qu'on en parle aujourd'hui. C'est jusqu'au 16 juin. Je trouve ça vraiment beau comme thématique. Ça vise à sensibiliser la société québécoise à l'importance de vous soutenir en tant que père séparé aussi. Puis, tu sais, on parle souvent d'aliénation parentale avec Marceau dans l'heure du midi. Puis, comme quoi, ben lui, il a réussi à avoir une belle relation avec la mère de ses enfants, d'avoir une collaboration aussi pour le meilleur des enfants. Mais c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Puis ça reste que c'est super important, autant pour la mère que pour le père. Quand c'est très émotif, par exemple, c'est pas facile. Puis je sais qu'il y a eu plusieurs auditeurs qui se sont déjà confiés sur le sujet. Quand on aborde cette question-là, il y a toujours des textos qui arrivent avec des histoires, justement, qui s'en suivent. Pas toujours facile à lire, ces histoires-là, mais très honnêtes, très authentiques, très sensibles. Puis, mais c'est ça. Il y a des ressources qui sont mises en place. On parle souvent de celles pour les femmes, mais celle de la Maison Oxygène existe et elle est importante ici même à Québec, que ce soit pour des questions simples pour aller trouver des amis, finalement, papa qui vivent la même chose que vous, ou des ressources, quelles que soient les ressources que vous avez besoin pour passer à travers, bien, c'est là pour vous. Donc, gênez-vous pas, 88-971-1021 pour vos histoires. Puis félicitations aux pères de juste avoir su prendre leur place, celle qui leur appartient à travers les dernières années. C'est beau de voir ça, puis d'entendre ça, comme le sondage dont on a évoqué les statistiques. Le lien parental, parents, papa, enfant, c'est la chose qui importe le plus les parents séparés, les papas séparés, et qui inquiète énormément, soit la qualité et la quantité de temps qu'ils vont pouvoir passer avec leurs enfants. Ça a beaucoup changé à travers le temps. Quand on revoit un peu les bibles là, qui étaient données, pas les bibles religieuses, là, mais les bibles de bonne famille qui étaient données dans le temps, on est à des années-lumière. Puis les papas, ben, ça a un bel impact positif dans la vie des enfants. Les Cowboys fringants, les étoiles filantes, on revient dans un instant à leur CV.
Les étoiles filantes.
Leur CV. Avec Pascal CV.
Allons, ayons confiance.
Boulevard
102.
Certaines personnes se sont confiées sur leur relation avec les enfants après la séparation. Entre autres, quelqu'un qui dit « Moi, j'ai une super relation avec ma fille, mais plus de contact avec la mère. C'est mieux comme ça. On a décidé qu'on allait plus se parler, mais qu'on n'allait pas détruire le lien avec nos enfants. Puis surtout, pas faire d'aliénation parentale, monter l'autre parent contre l'autre. Des gens aussi qui se sont confiés sur le fait que l'autre parent a monté les enfants contre nouveau conjoint, nouvelle conjointe pour différentes raisons, mais qui ne sont pas nécessairement les meilleurs. Il y a des gens aussi qui ont dit « Ah, c'est quoi la ressource? Moi, j'aimerais ça avoir une gang d'amis, pères séparés. J'ai l'impression que je suis tout seul sur mon bateau. Là. On s'est séparés, ma conjointe et moi, dans les deux dernières années. Puis ça a été pas facile, avec beaucoup de remous. Au final, je ne connais personne d'autre dans mon entourage qui vivent les mêmes choses. C'est comme si on pouvait pas toujours nous comprendre. Ça s'appelle la Maison Oxygène, mesdames et messieurs. Hey, on clôture leur CV ensemble. Merci beaucoup d'avoir été là. Dans un instant, ben, c'est avec Marceau le midi que ça continue. Il y a avec Marceau qui est là, Tom Gauthier aussi. Beaucoup d'invités. Entre autres, Éric Duhaime qui va venir faire son tour. Des choses à nous raconter, ça en a. Il a fait un nouveau trajet pour quelque chose dont vous connaissez très bien l'existence. Ouais, il sera avec nous tout de suite après Corias et Jamais, Jamais. Nous, on se reparle dès demain, 10h, ou encore tout de suite dans Marceau le midi.